Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Guillaume Erner. Donc nous partons pour l'Iran, bien entendu, avec notre invité qui est en ligne de Suisse, Mohamed Reza Djalili. Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, législative et élection également de l'Assemblée des experts, qui est une assemblée de 88 religieux, élus pour 8 ans et qui nomme le guide suprême. Les législatives, de leur côté, il s'agissait de 290 sièges à pourvoir. Les députés sont élus pour 4 ans. Il y aura un deuxième tour en avril ou en mai pour 51 sièges restants. Et il y a eu 60% de participation. Les résultats sont pour l'heure partiels. Juste un mot, Mohamed Reza Djalili. J'en profite d'ailleurs pour citer votre ouvrage que vous avez publié récemment chez Talendier, qui s'intitule « L'Iran sans questions ». En fait, ce sont 100 problématiques et c'est un ouvrage donc rédigé en collaboration avec Thierry Kellner, donc « L'Iran sans questions ». En ce qui concerne la participation, 60%, pour autant qu'on sache, est-ce que ça vous paraît satisfaisant, faible, fort ?
Je crois que c'est quand même satisfaisant, ce n'est pas très fort, il y a eu de par le passé plus de participants. Ce qui est intéressant à souligner par rapport au nombre de participants, c'est qu'il semble qu'à Téhéran, il y a eu moins que 60%, peut-être aux alentours de 45%, ce qui est quand même révélateur du peu d'intérêt que ce qu'a suscité ces élections dans la capitale iranienne. Mais peut-être en province, est-ce qu'il y a des intérêts locaux dans lesquels le Parlement peut jouer un rôle, les participations sera plus élevée.
Alors, il y a une chose intéressante à lire les dépêches. On parle d'une percée des réformateurs et surtout d'ailleurs dans la capitale, mais il n'y a pas de majorité constituée apparemment, ni pour les réformateurs, ni pour les conservateurs. Mohamed Reza Djalili, est-ce que vous retenez cette double étiquette réformateur-conservateur? Ça ressemble un peu à l'URSS, à la soviétologie.
Oui, ça a un peu évolué. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de parler de réformateurs et conservateurs. Il y a une sorte de coalition. Par exemple, la liste de l'espoir qui a gagné les 30 sièges à Téhéran était formée de conservateurs, de réformateurs, mais de conservateurs pragmatiques, mais aussi des modérés. Donc c'est une coalition. On peut dire qu'aujourd'hui, le système a une nouvelle identité. On peut penser qu'il y a des supporters du gouvernement Rouhani, qui sont réformateurs, modérés, conservateurs, pragmatiques, et les opposants au gouvernement Rouhani. C'est ça la nouvelle ligne de fracture qui apparaît au sein de ce Parlement.
Est-ce que c'est un Parlement important finalement? Est-ce qu'il en porte la décision? Est-ce qu'il peut que faire voter un certain nombre de lois en toute indépendance, etc. Au fond, quel crédit lui apporter comme institution?
Oh, il faut relativiser vraiment l'importance du Parlement. Le Parlement iranien ne peut pas faire de miracles. Il est vraiment emmailloté par un certain nombre d'institutions, par la Constitution, etc. Globalement, le Parlement a un impact sur les questions locales. Les députés de telle ou telle province peuvent essayer de faire avancer leurs affaires, leurs problèmes régionaux. Il peut aussi créer certains obstacles au gouvernement, mais c'est certainement pas le Parlement qui dessine les lignes conductrices de la politique interne ni de la politique internationale. La preuve, c'est le Parlement qui vient de terminer son travail. Dans ce Parlement, il n'y avait que 30 députés sur 290 qui étaient dans le camp, disons, des modérés, des réformateurs. Et M. Rouhani a pu faire passer l'accord sur le nucléaire en ayant une minorité au sein du Parlement, parce qu'au fond, ce qui compte dans le système de la République islamique, c'est le consensus qui existe entre le guide et le président. Ce consensus a existé pour la question du nucléaire et cela a permis d'avancer sur ce dossier-là. Si ce consensus n'existe pas sur la deuxième étape de la politique de M. Rouhani, c'est-à-dire les réformes économiques attendues par la population, les choses n'avanceront pas, même si au sein du Parlement, il y a un renforcement du camp proche de Rouhani.
Alors, le président, son mandat s'achève, j'ai vu, en 2017, c'est peut-être le début ou la fin de l'année, ou le milieu d'ailleurs, mais c'est bientôt finalement.
C'est dans 18 mois, c'est en juin 2017. C'est vraiment un des aspects qu'il faut suivre de près. Je pense que ces élections renforcent un peu la position de Rouhani. S'il n'avait pas eu une percée de sa tendance au sein du Parlement, peut-être qu'il aurait eu beaucoup de difficultés pour briguer un second mandat. Dans la situation actuelle, s'il n'y a pas d'incident, s'il n'y a pas de rupture avec le guide, il est probable que M. Rouhani puisse participer avec un certain soutien populaire dans les élections futures présidentielles en juin 2017.
Mohamed Reza Djalili, est-ce que c'est là aussi intéressant de voir ce qui s'est passé à l'Assemblée des experts, donc près de 90 religieux élus pour 8 ans qui nomment le guide. Le guide a 76 ans. Est-ce que c'est intéressant? Parce que là, c'est la partie, on va dire, théocratique, religieuse du système politique.
Oui, c'est vraiment une assemblée de mollahs, en fait, où il n'y a aucune femme qui représente qui que ce soit, par exemple. Ce qui est très intéressant dans ces élections, c'est que les plus extrémistes, comme Mesbah Yazdi ou les Ayatollah Yazdi, ont été exclus et n'ont pas pu atteindre le quorum nécessaire pour être élus. Il y a la rentrée d'un certain nombre de modérés, dont M. Rafsanjani et M. Rouhani sont devenus aussi membres de l'Assemblée des experts. Il est probable que, étant donné que le premier élu, celui qui a eu le plus de voix, Rafsanjani, redevient président de cette assemblée, ce qui pourrait influer les perspectives futures quant à la succession du guide.
Alors, c'est toujours compliqué, mais c'est toujours la même question, d'ailleurs, sempiternelle. C'est au fond, ça reste, à votre avis, un pouvoir, et notamment un pouvoir d'addition, mais un pouvoir polycentré en Iran. C'est-à-dire qu'on a toujours du mal à essayer de comprendre qui décide de quoi, à quel moment, en fonction de quel rapport de force, au fond.
Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Le système est extrêmement complexe et puis les jeux ne sont pas clairs. Par exemple, au Parlement, il n'y a pas vraiment de parti politique. Aujourd'hui, par exemple, on nous annonce qu'il y a une douzaine de personnes indépendantes qui ont été élues. Ces douzaines de personnes, on ne sait pas dans quelle tendance ils vont se placer. Est-ce qu'ils vont de temps en temps être du côté des modérés, de temps en temps du côté des conservateurs? Et puis, étant donné que ce sont des factions floues et qui peuvent changer de direction. Le président actuel du Parlement, M. Darlijani, dirigeait la faction conservatrice jusqu'à il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, il est rentré dans une liste indépendante. Donc, ils peuvent changer au cours de leur carrière politique de tendance et c'est très très difficile de décrypter ce système. Il faut vraiment le suivre quasiment au quotidien.
Aussi
très ennuyeux.
Vous avez du pain sur la planche. Merci beaucoup Mohamed Reza Djalili. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève et que d'autre part vous avez publié avec Thierry Kellner chez Talendier un ouvrage qui s'intitule tout simplement l'Iran en 100 questions. Merci beaucoup.